Les actualités du sel, Daniel Hillion, au micro de David Alonso.
Bonjour Daniel, David Alonso. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de l'actualité du sel et de ses projets, de ses partenaires. Alors, on va faire un premier focus sur nos partenaires terrains. Le sel aujourd'hui intervient souvent avec différentes organisations en Afrique et dans d'autres pays et on leur rend visite. Peux-tu m'expliquer l'intérêt de ces voyages ?
Ce qu'il faut savoir avec le sel, c'est que nous avons comme principe de soutenir des structures chrétiennes locales avec du personnel local. Donc, quand nous allons sur le terrain pour visiter les projets et les différentes actions qui sont soutenues, l'idée, c'est pas d'aller donner un coup de main. C'est pas d'envoyer des volontaires ou des bénévoles ou même des professionnels de l'humanitaire ou du développement pour soit aider nos partenaires, soit apporter tout le contenu du projet comme certains peuvent le faire.
Donc au sel, nous n'avons pas d'expatriés.
Exactement. Aucun expatrié qui serait envoyé pour mettre en œuvre les actions qui sont financées, que ce soit dans le cadre des projets de développement, dans le cadre du parrainage ou dans le cadre des actions de secours d'urgence.
Alors dis-moi, quelle est la raison de ces voyages terrains ?
Alors les voyages terrains sont là pour permettre au sel de voir comment ça se passe. Le sel collecte des fonds en France auprès des chrétiens et des églises qui décident de s'engager pour soutenir des actions humanitaires et des actions de développement. Et notre responsabilité au sel, c'est de bien utiliser les fonds qui nous sont confiés par notre public en France. Et l'un des moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour cela, c'est d'aller sur place, de regarder comment ça se passe, de peut-être donner tel ou tel conseil si le besoin s'en fait ressentir, et aussi de revenir ensuite en France pour pouvoir dire que nous sommes fiers de nos partenaires. Parce que l'un des buts aussi, l'un des objectifs de ces voyages sur le terrain, c'est de revenir en France avec des histoires à raconter, de nous assurer de ce que font nos partenaires pour pouvoir ensuite le redire à notre public en France et faire passer le message que dans les pays en développement, il y a beaucoup de pauvreté et de problèmes, mais il y a aussi des chrétiens qui sont à l'œuvre et qui font beaucoup de choses enthousiasmantes.
Peux-tu nous donner quelques exemples concrets de ce qui se fait pendant ces voyages, des activités qui se font avec donc ces chargés de projet qui visitent nos partenaires ?
Les personnes qui vont visiter les projets qui sont financés par le sel vont faire des activités assez diverses. Il y a des aspects assez administratifs. On va voir le partenaire. Le partenaire, en fait, c'est une organisation chrétienne locale, et donc il y a des aspects financiers où on va regarder comment est-ce que l'argent que le sel a envoyé au partenaire est utilisé. On va vérifier qu'il a été utilisé conformément à ce qui était prévu au départ pour la mise en œuvre du projet. Il peut y avoir un décalage parfois, et on va se demander dans ce cas-là pourquoi a eu lieu le décalage. Vous savez, il peut y avoir plein d'imprévus qui se produisent. L'humanitaire, le développement, c'est pas quelque chose où on peut prévoir les choses en se disant c'est sûr, ça va se dérouler comme ça, exactement comme prévu, comme du papier à musique. Il peut y avoir plein de choses qui se produisent. Je donne parfois l'exemple suivant. Vous avez un projet d'élevage et puis tout d'un coup, toutes les poules crèvent parce qu'il y a une épidémie. Ça fait partie des imprévus. C'est ni une malhonnêteté, ni forcément parce qu'il y a eu une négligence quelque part, c'est que ils se produisent de tels aléas dans le déroulement d'un projet de développement. Donc il y a un aspect qui va consister à suivre le projet de manière technique, et puis il va y avoir un aspect aussi qui est davantage lié à la communication, comme prendre des photos, réaliser un film, recueillir le témoignage à la fois du partenaire, qui est l'organisation chrétienne locale qui met en œuvre le projet, mais aussi des bénéficiaires, c'est-à-dire la population locale qui va bénéficier des activités de notre partenaire.
Merci beaucoup Daniel. Donc sur ce focus en fait sur nos partenaires, nous allons passer maintenant à un autre aspect de l'activité du sel, ce sont les parrainages d'enfants et en particulier un aspect qui revient souvent dans nos différents échanges, ce sont les courriers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces courriers ?
Oui, alors le CEL a publié récemment sur son blog une page avec quelques perles d'enfants parrainés, c'est-à-dire ce sont des petites phrases qui ont été trouvées dans les courriers que les enfants envoient à leurs parrains ou à leurs marraines et qui ont pu nous faire sourire parce que nous ou nos partenaires de Compassion les ont trouvés et on s'y attendait pas. Je vous en cite une ou deux de ces perles. Un enfant parrainé écrit « C'est chouette que tu aies un chien. J'ai jamais eu de chien. Sont-ils bons à manger ?» Ou bien encore « La manière dont les enfants parrainés peuvent parfois exprimer leur affection à leur parrain ou à leur marraine peut être assez inhabituelle. Je te fais un câlin d'ours avec la tendresse d'un singe. »
Ça promet.
Ces courriers sont donc tendres, amusants, comme on le voit là. Qu'est-ce qu'ils représentent pour les enfants ?
Vous faites bien de retourner la question, oui. Parce que là, tout d'un coup, vous parlez de ce que le courrier représente pour les enfants, c'est-à-dire, je pense plutôt, des courriers que les parrains ou les marraines écrivent à leur filleul, parce que c'est vrai que, pour ce qui concerne les courriers que les enfants écrivent, parfois, pour l'enfant, écrire à son parrain, ça représente une montagne. C'est pas si simple que ça d'écrire à quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, quelqu'un dont ils ont du mal à imaginer la vie, quelqu'un qui, soit dit en passant, ne leur écrit peut-être pas très souvent non plus. Parfois, ça implique pour l'enfant de se dire « bon, ben, je sais pas ce que je vais écrire, donc je vais recopier ce que le moniteur a écrit au tableau ». Ce qui peut amener le parrain ou la marraine à être un peu déçu parce que le courrier va lui sembler un peu stéréotypé. Mais en fait, dans le parrainage, les courriers qui sont vraiment les plus importants, c'est les courriers que les parrains et les marraines écrivent. Parce que la pauvreté, c'est aussi un message qui parvient à un enfant et qui lui dit « tu es pauvre, tu es né pauvre, tes parents sont pauvres, si tu as des enfants un jour, ils seront pauvres eux aussi, laisse tomber ». Et la correspondance, nous la concevons au CEL comme un moyen de faire passer un autre message à un enfant. De dire à un enfant, je pense à toi, tu comptes pour moi, il y a ta photo qui est quelque part chez moi, je prie pour toi, accroche-toi. Et ça peut représenter tellement pour un enfant parce que ce message-là, il l'entendra peut-être pas tant que ça. Alors bien sûr, avec nos partenaires, il va l'entendre au centre d'accueil. Mais il a la possibilité de l'entendre de la part de quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, qui a plein de soucis et autres, mais qui pense que l'enfant en vaut suffisamment la peine pour prendre le temps de lui écrire, pour prendre le temps de lui envoyer une photo de lui et de sa famille, pour l'encourager. Et on a des témoignages d'enfants parrainés qui gardent comme l'un des trésors les plus précieux qu'ils possèdent les lettres que leurs parrains ou leurs marraines leur ont envoyé et qui y trouvent une source de réconfort dans des moments difficiles.
Tu parles de ces lettres comme un amoureux parlerait des lettres qu'il recevait de son amoureuse dans son jeune temps. T'en rends-tu compte ?
C'est que je crois que la correspondance, la vraie correspondance, où on prend vraiment le temps de se poser pour écrire à quelqu'un à qui on pense, ça compte vraiment. Moi, je l'ai vécu personnellement. Je pense que recevoir une lettre ou écrire une lettre, c'est pas anodin. Ça peut vraiment compter. Et recevoir un message d'encouragement, ça peut vraiment compter. Et oui, ça fait plus tellement partie de la culture des gens aujourd'hui. Alors, je dis souvent que ça fait pas partie de la culture des enfants parrainés d'écrire des lettres, mais ça fait plus non plus tellement partie de la culture des parrains ou des marraines de le faire. Et pour déculpabiliser les parrains qui pourraient se dire que c'est trop lourd, c'est trop difficile, comment est-ce qu'on va y arriver, je dirais, n'en faites pas une montagne. Prenez une carte postale et écrivez 5 lignes. Ou envoyez une photo de vous et de votre famille et dites simplement... Je pense à toi, je prie pour toi, comment ça va, accroche-toi. Quelque chose de très bref. C'est peut-être ça la différence avec le courrier des amoureux dont vous parlez, qui peut être des courriers de 10 pages. Non, là, il suffit d'écrire quelques lignes et ça compte vraiment pour l'enfant.
Alors, nous allons passer sur notre dernier sujet. J'ai vu ressortir une vieille vidéo tourné par le groupe SketchUp sur la dette. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors nous avons été sollicités en fait par SketchUp qui nous a dit au fait on avait fait un sketch pour vous lors de votre campagne sur la dette, c'était au début des années 2000. Est-ce qu'on pourrait pas le ressortir un peu? Et alors c'est un tout petit sketch où on voit un personnage qui représente les pays du Nord et un personnage qui représente les pays du Sud, avec les pays du Nord qui sont sur le dos des pays du Sud en fait, hein. Alors bien sûr on peut pas tout dire dans un sketch. Bien sûr, on peut pas expliquer un problème qui est tellement compliqué, mais en fait, ça, c'est un sketch qui peut nous alerter sur le fait que le problème de la dette, c'est vite un cercle vicieux. Parce que il suffit pas de se dire, à partir de maintenant, on assainit les relations, mais s'il reste une dette du passé, cette dette du passé peut pourrir les relations du présent et on n'en sort plus, parce que si... Allez, je simplifie, mais si pour pouvoir sortir de la situation de dette dans laquelle on est aujourd'hui, il faut réemprunter maintenant, ça n'en finit plus.
En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que cette vieille vidéo est d'une terrifiante actualité, puisqu'elle correspond aujourd'hui à ce que nous entendons autour de nous, de pays du Sud qui étaient sortis du cercle infernal de la dette et qui sont retombés pour des raisons conjoncturelles. Quel est notre regard de chrétien sur cette situation ?
Alors, les situations sont très diverses, mais récemment, le sel a encore une fois voulu attirer l'attention sur ce qu'on appelle les fonds vautours, qui sont une forme particulièrement préoccupante et qui... particulièrement destructrice en fait de dettes. Ce sont des fonds qui vont racheter à prix bradé les créances d'État en difficulté ou même proche de la faillite et qui ne vont pas négocier avec les autres créanciers les restructurations de dettes. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire d'efforts pour alléger la dette des pays en difficulté.
Tout l'inverse.
C'est ça. Ils attendent le moment opportun pour poursuivre le pays débiteur devant la justice en réclamant un remboursement des créances au prix fort, c'est-à-dire la valeur d'origine, mais aussi les intérêts. C'est-à-dire, vous avez des fonds qui rachètent tes dettes et puis qui ensuite vont les faire payer au prix fort.
En fait, on essaie de noyer le malade.
Oui, on pourrait dire les choses de cette façon-là. Et en fait, peut-être en tant que chrétien, même si nous n'avons pas tous exactement les mêmes idées sur les bonnes solutions à appliquer dans telle et telle situation, on peut se dire qu'il y a des moments où il faut savoir annuler tout ou partie d'une dette. Savoir offrir un nouveau départ.
Alors, est-ce que c'est pas cette notion-là qui est justement derrière celle du jubilé ?
Oui, c'est ça. Et la campagne pour l'annulation de la dette des pays pauvres qui avait eu lieu au début des années 2000 s'était appelée Jubilé en référence à cette vieille loi qu'on trouve dans le livre du Lévitique qui empêchait que certaines mauvaises décisions ou certains aléas de la vie ou autres amènent des situations dans lesquelles des inégalités trop grandes se créent et se perpétue, il faut que de temps en temps il puisse y avoir un nouveau départ.
On va rester sur cet appel qui nous parle autant à titre personnel que dans notre engagement aujourd'hui associatif. Merci beaucoup Daniel pour ces instants. On se retrouve le mois prochain.